radiovostok.ch.
Le déconfinement a commencé et dès jeudi, la ferme de la Chapelle à Lancy réouvre ses portes. On pourra y voir Dopamine Crush, une exposition de Luc Mattenberger. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes artiste, vous travaillez surtout la sculpture et l'installation, on y reviendra. Mais j'aimerais commencer par la dopamine. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à cette hormone ?
Bien, ça fait un moment que je m'intéresse aux relations entre l'homme et la machine. Et puis, elles ont pris un tournant de plus en plus lié au big data ces dernières années. Et il y a passablement d'études qui sont faites aussi sur les impacts que cela peut avoir dans notre cerveau. Et entre autres, la dopamine est une hormone qui est passablement impliquée dans notre réaction aux nouveaux médias.
Et donc pour les auditeurs, les auditrices, la dopamine, qu'est-ce que c'est ?
La dopamine, c'est une hormone qui nous amène à reproduire une action qui va nous procurer une sensation de plaisir pour réussir à créer une sorte de hiérarchie dans les expériences qu'on a vécues, et on va tendre à vouloir reproduire cette expérience.
Ce qui veut dire que dans l'usage contemporain des réseaux sociaux, par exemple d'Instagram, des gens qui sont accros, le cerveau utilise de la dopamine ?
Alors, c'est un peu ce qui est dit de manière générale. Moi, j'ai pas de formation scientifique à proprement parler, mais oui, c'est tout ce qui est évoqué par rapport aux nouveaux médias.
Et donc, évidemment, Dopamine Crush parle de dopamine. Et il y a aussi la pratique de la pleine conscience, de la méditation, qui traverse cette exposition, certaines de ses pièces en tout cas. Pourquoi ?
Oui, moi je m'intéresse à la question plutôt du mind control, de toutes les techniques qu'on va pouvoir avoir pour influencer notre esprit, nos cerveaux. Et je me demande si on peut se rendre par exemple un peu moins prédictible à l'heure où on devient, avec force de big data, assez facile à cerner pour, disons, certaines choses. Et donc, la pleine conscience m'a intéressé comme une de ces techniques, puisque au départ, elle provient plutôt d'un contexte de traitement, par exemple de traitement des syndromes post-traumatiques, ce pourquoi l'armée s'y est intéressée, américaine. Et ce qui est assez effrayant, c'est qu'aujourd'hui, elle est plutôt utilisée également pour l'entraînement au combat. Donc voilà, c'est toujours ces moments de retournement, de techniques qui ont d'abord des premières intentions, dont les intentions peuvent être déviées. Tout cela sans jugement, mais vraiment en essayant d'interroger l'attirail comme ça de moyens auxquels on a disposition aujourd'hui pour essayer de nous influencer, ou pour le meilleur ou pour le pire.
Et il y a aussi, vous l'avez dit là à demi-mot, ce thème de la torture, de la guerre, de l'armée. Donc c'est vraiment, comment dire, vous avez même une installation qui diffuse la phéromone de la peur. On en revient donc toujours systématiquement au cerveau, à son fonctionnement, à comment est-ce qu'on peut le câbler ou pas, le rendre prédictible ou moins.
Voilà. Par exemple, dans le mécanisme de la peur, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut agir sous l'influence de la peur. Plusieurs techniques peuvent nous permettre de ressentir cette peur. Une de celles-ci semble être que, malgré tout, nous sommes, comme êtres humains, encore sensibles à ces phéromones, chose qui semblait encore il y a peu assez peu véridique. Mais voilà, les dernières études semblent à remarquer qu'on a encore les outils de perception de ces phéromones. L'expérience en question est une expérience qui, là encore, avait été financée par des fonds militaires, de la CIA en fait, qui cherchait à savoir si l'humain percevait encore cette phéromone de la peur. On sait maintenant qu'elle est perçue par des rongeurs, et c'est celle que j'utilise dans l'exposition. Celle qui, à court pour l'espèce humaine, n'a pas encore réussi à être isolée. Et ils ont simplement soumis des personnes à une situation de stress, en l'occurrence du saut en parachute. Ils ont récupéré la sueur, puis ils ont soumis à deux groupes, un groupe de contrôle, puis un deuxième groupe qui était soumis à cette sueur, à des IRM. Et ils ont simplement remarqué que les personnes qui étaient en présence de cette odeur développaient beaucoup plus facilement des réflexes de peur.
Et vos réflexions, est-ce qu'on peut dire que vous voulez les faire éprouver, les faire vivre aux visiteurs de l'exposition ?
Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas envie de donner des grandes leçons. Ça reste un territoire d'expérimentation. Ça reste un territoire où j'invite justement le spectateur à expérimenter certains de ses états et puis à le pratiquer pour lui-même ou simplement voir une image et s'interroger sur son propre rapport à la peur, par exemple, et sur les choses qui pourraient stimuler ce rapport à la peur.
Et vous l'avez dit, hein, votre travail tourne de façon plus générale autour de l'homme et de la machine, des relations de pouvoir qui peuvent s'instaurer entre les deux. Quand est-ce que vous avez commencé à y penser ?
Ben, c'est déjà assez ancien, c'est-à-dire qu'au tout départ de mon travail, il y avait la question de la machine et de sa puissance. Et de facto, la puissance apporte aussi le pouvoir. Donc assez vite, ces questions de pouvoir se sont immiscées dans ma pratique. Et puis peut-être un moment clé, c'est la proposition d'une résidence aux États-Unis, où j'ai eu la possibilité de mener une expérience un peu plus longue durée, puisque je me suis simplement emparé d'une partie des chansons qu'on sait avoir été utilisées à des fins de torture à Guantanamo. Et j'ai décidé d'avoir que ces chansons pendant mon séjour américain. Et qui plus est de descendre vers la frontière mexicaine, pas exactement jusqu'au Mexique, mais juste avant. Et de me faire arrêter chaque soir par les Border Patrol avec cette playlist qui passait en boucle. Et de voir ce que ça pouvait produire.
Luc Mattenberger, dès jeudi, on pourra aller voir Dopamine Crush, votre exposition à la ferme de la Chapelle, dont on continue à parler. On a évoqué les idées, les concepts. Parlons maintenant d'espace et de volume. Votre pratique se concentre sur la sculpture et l'installation. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous permet ?
Eh bien, je crois que le côté immersif que j'évoquais précédemment, d'ailleurs, pour moi, toutes ces chansons sont aujourd'hui... ont vraiment une capacité à me projeter immédiatement dans ces grands espaces américains. Donc voilà. Et donc, c'est ce que je cherche à faire avec l'installation, à me permettre, d'abord moi-même, de pouvoir m'immiscer dans ces structures, de pouvoir passer du temps dans ces situations. Je prends par exemple une des situations de l'exposition qui s'appelle « Station assise lumière ». Il s'agit simplement d'une pièce qui est entièrement recouverte de blanc, dont le sol est couvert de sel. Donc on a ce petit goût salin comme ça dans la bouche, cette odeur également un peu de sel. Et puis on fait face à un ballon lumineux, une sphère lumineuse qui est gonflée avec un ventilateur qui fait ce léger bruit et petite aiguë comme ça. Et puis on peut s'asseoir sur un coussin de méditation et faire face à cette lumière qui est totalement omnidirectionnelle et qui semble pénétrer tous les recoins de notre peau. Voilà.
Donc ça veut dire que vous créez plus qu'un espace, une situation ?
Parfois, oui. Après, chaque projet est différent, mais avant tout, c'est la situation qui m'intéresse, la situation quasi expérimentale. Par exemple, l'été passé, j'ai eu également une invitation en Russie. Cette fois, c'était dans les confins de l'Oural russe, tout proche du Kazakhstan, dans une ville qui est la résultante d'une économie planifiée. Enfin, c'est un contexte assez étrange. Et je me demandais comment l'interroger. Et là, j'ai pris le biais de la pleine conscience de méditation, qui ont été enregistrés au moyen d'électroencéphalogramme et de d'IRM, et à partir desquels j'ai pu piloter un tour mécanique pour venir couper directement des barres d'aluminium qui ont ces sortes d'oscillations de vagues et que je propose à la lecture soit des visiteurs, soit lors de performances de performeurs qui sont libres de s'en inspirer ou pas.
Et donc ça veut dire que votre processus de création part d'une idée ? Et que l'esthétique, le matériau, la forme va la servir ?
Oui, on peut dire ainsi, oui. Oui, après, évidemment, c'est toujours une quête esthétique et à la fois une recherche plus intime, également sur les enjeux que je trouve des enjeux de société aujourd'hui, tout particulièrement par rapport à la puissance de la machine aujourd'hui. Mais c'est une sorte de territoire, et c'est peut-être pour ça que l'installation prend tout son sens, le territoire où toutes ces choses se rejoignent.
Et que dire de la couleur ? Parce que tout est extrêmement blanc.
Ah, le blanc clinique. Eh bien, ça permet de... Pour moi, c'est une couleur qui laisse de côté tout code couleur, donc toute possibilité d'interprétation à travers le code coloré. Et c'est peut-être un héritage de nos premiers travaux qui était très lié au vocabulaire de l'urgence, où assez tôt j'ai décidé de réfuter ce code colorimétrique.
Et pour les matériaux, est-ce que vous avez aussi certaines contraintes ?
Les matériaux, ben, ça va toujours être le projet qui les dicte et les addicte. Pour un coussin, c'est quand même mieux que ça soit parfois confortable. En l'occurrence, si le but de l'expérience est de conduire à une, disons, un temps relativement long avec la structure. Mais oui, ça va souvent être lié aussi à des sensations, à des perceptions. C'est-à-dire que le carrelage blanc, il revêtit par exemple plusieurs fonctions. Dans mon esprit, c'est une surface qui est réfléchissante, c'est une surface qui est froide et donc vraiment au contact de la peau, elle est froide. Mais c'est également une surface très orthonormée qui nous permet de mesurer instantanément un espace. Si on sait que chaque carreau fait 20 cm, on peut, tel une grille sur un papier quadrillé, mesurer l'espace.
Et justement, la mise en espace, c'est important. Dopamine Crush, vous l'avez pensé précisément pour la ferme de la Chapelle ou l'accrochage est venu dans un second temps ?
Non, c'est précisément pensé pour ce lieu qui offre ses différents niveaux. C'était assez piquant de mettre ça en parallèle avec des niveaux de conscience. Et évidemment, ça a appelé certaines interventions. Je pense tout particulièrement à Station Assise, Lumière, qui tire vraiment pleinement parti du caveau, de cet espace qui normalement devrait être dans la pénombre et qui se retrouve à être l'espace le plus lumineux au sous-sol de l'exposition.
Mmh. Et pour finir, pourquoi est-ce que c'est important de continuer à penser avec vous à ces relations de pouvoir entre hommes et machines, particulièrement en ce moment ?
Bien, tout simplement parce que on est, je pense, quand même à un moment relativement clé où ces machines deviennent très puissantes. Je pense quand même que le scandale Cambridge Analytica nous a montré combien il pouvait avoir d'influence sur des processus démocratiques. Et peut-être simplement il est bien d'en avoir conscience et de choisir ce qu'on est prêt à faire ou ne pas faire, à donner ou ne pas donner comme information, à utiliser en termes d'outils de manière consciente ou inconsciente. Et voilà, et je propose simplement un voyage peut-être dans un contexte un peu différent pour pas forcément découvrir des choses nouvelles, mais les expérimenter, les vivre différemment.
Et donc pour expérimenter et vivre différemment ces concepts, Dopamine Crush, c'est à voir dès jeudi 14 mai à la ferme de la Chapelle à Lancy, entre 14 et 18 heures. L'exposition est prolongée jusqu'à fin juin. Luc Mattenberger, je rappelle que vous en êtes l'artiste. Merci beaucoup et très bonne journée.
Merci pour l'invitation, bonne journée.
Radio-Vostok.ch